Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le lundi 18 octobre et on va explorer l'actualité ensemble jusqu'à 6h30. Accrochez-vous bien ce matin sur Europe 1, on va vous emmener aux confins de notre système solaire pour en percer l'origine. C'est la mission de Lucie, une sonde de la NASA qui a été lancée samedi avec succès direction les astéroïdes troyens sur l'orbite de Saturne. Ils sont vieux de 4 milliards d'années comme notre système solaire et pourraient donc nous aider à en savoir plus sur la formation de nos planètes.
Mais ce n'est pas tout, Julien.
Oui, un autre instrument va bientôt s'envoler dans l'espace, un bijou de technologie que l'on développe depuis 30 ans, le successeur Hubble, le télescope James Webb, un joujou à 10 milliards de dollars tout de même, qui doit lui nous aider à comprendre les origines de l'univers. On va en parler à 6h10 avec l'astrophysicien Michel Vizeau. Dans l'actualité également, Ombline, la journée mondiale de lutte contre la douleur.
Oui, la douleur, Julien, c'est des migraines, des douleurs chroniques articulaires, une fibromyalgie, une lombalgie. Il existe de nombreux types de douleurs variables en intensité. Certaines sont parfois difficiles à soigner, voire à diagnostiquer. L'enjeu est également social. Une personne qui souffre de douleurs chroniques qui risque de voir son activité baissée et peut se retrouver isolée. Existe-t-il des douleurs impossibles à apaiser? A-t-on des nouvelles pistes de médicaments et de traitements? Et puis, est-ce que les médecins sont aujourd'hui suffisamment bien formés pour prendre en charge la douleur d'un patient? Nous serons à 5h40 avec la professeure anesthésiste spécialiste de la douleur, Valéria Martinez. Elle est la présidente de la Société française d'études et de traitement de la douleur.
On va parler séries, comme chaque début de semaine dans votre prescription culture. Marie Gilquel a choisi Succession, où il est question d'un trône, d'une guerre de pouvoir et d'un empire à défendre dans le monde des médias américains. La saison 3 est diffusée à partir d'aujourd'hui en France. Et puis on terminera avec votre partition, Ombline.
Oui, un chant brut et rock sur une musique aux accents celtiques. The Celtic Social Club vient de sortir son nouvel album Dancing or Dying. Rendez-vous avec ce groupe franco-irlandais à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors après ce week-end frais que l'on a connu, est-ce qu'on doit rester couvert pour ce début de semaine?
Eh bien la bonne nouvelle Julien, c'est que vous allez pouvoir ressortir les t-shirts. Voilà. J'espère que vous n'aviez pas rangé les habits d'été trop loin.
Figurez-vous que j'ai fait du changement hier. Hein. J'ai enlevé toute la garde-robe d'été pour changer par des gros pulls.
Eh bien fallait pas, parce qu'en plus demain on va avoir un pic de chaleur. Donc demain on va avoir une journée très estivale sur l'ensemble du pays, Julien. Donc il va falloir ressortir les t-shirts.
Bon, je vous en prêterai.
J'ai du nez quand même.
Oui, là vous avez été bon. Appelez-moi la prochaine fois. Alors ce matin, on va quand même avoir du froid. Hein. Moins 2 à Auxerre, moins 1 au Puy-en-Velay, 2 à Clermont-Ferrand. On a 5 degrés à Paris, Lille et Périgueux, 7 à Bordeaux, 11 à Nice. Mais alors dans l'après-midi, les températures vont grimper parce qu'on a un vent de sud qui souffle assez fort. D'ailleurs, il va souffler fort sur la pointe du Cotentin. Et du coup, ça va faire grimper les températures avec 15 degrés à Belfort, 19 à Paris, 21 à La Rochelle, 24 pour Bordeaux. Alors dans le ciel, on a du beau temps quasiment partout, sauf sur le grand quart nord-ouest. Aujourd'hui, en Bretagne, sur le Pays Nantais et sur le Cotentin, c'est pas terrible, c'est gris et il pleut. Partout ailleurs, c'est ensoleillé.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec le premier journal de ce lundi. Il est 5h sur Europe 1. Le docteur Macron au chevet de la justice. Le président de la République lance aujourd'hui les états généraux de la justice, annoncés en juin dernier en pleine polémique sur l'état de l'institution. Magistrats, avocats, tout l'écosystème judiciaire va s'exprimer. Des citoyens pourront aussi participer. Les salaires français en deçà des salaires allemands ou scandinaves, conséquence de la désindustrialisation du pays. Sujet prégnant en ce moment compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat dû au coût de l'énergie. Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin, reviendra sur ces difficultés. Et puis Jean Castex rencontre le pape ce matin, une visite prévue de longue date pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Hasard du calendrier, alors que les Français sont toujours choqués par le rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Exercice très délicat pour Emmanuel Macron à l'approche de la présidentielle. Le coup d'envoi aujourd'hui à Poitiers des états généraux de la justice. Réponse de l'exécutif après notamment la confirmation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Les débats dureront 5 mois pour proposer des réformes et ainsi remettre à plat le système judiciaire. Sévèrement critiqué et incompris notamment pour sa lenteur. l'heure. Des états généraux à l'initiative des acteurs de la justice, Stéphane Place.
Le 4 juin dernier, les deux plus hauts magistrats de France, Chantal Arens et François Molins, sont reçus par le président de la République. Très inquiets de l'état de la justice, la première présidente et le procureur général de la Cour de cassation demandent à Emmanuel Macron de lancer ces états généraux. Mais attention, pas une énième réunion entre juges, ce n'est pas la justice qui parle à la justice, dit-on à l'Élysée. Alors à Poitiers, tout à l'heure, autour d'Emmanuel Macron, la magistrature sera présente, bien sûr, mais aussi les avocats, huissiers, greffiers, notaires, surveillants de prison, éducateurs, policiers, gendarmes, sans oublier un panel de citoyens de la Vienne. Coup d'envoi de 5 mois de consultation pour restaurer le lien de confiance entre l'institution judiciaire et les Français. Chacun pourra donner son avis via une plateforme numérique et des tables rondes partout dans le pays. Fin février, c'est une commission indépendante qui rendra la synthèse des propositions. À la tête de cette commission, Jean-Marc Sauvé, un haut fonctionnaire projeté récemment sur le devant de la scène, puisque c'est lui qui a dirigé la commission sur les abus sexuels dans l'Église.
Stéphane Place, correspondant Europe 1 à Poitiers.
Une question à présent que l'on s'en pose tous, alors que les prix augmentent au supermarché ou encore à la pompe, suis-je assez bien payé ?
Les salaires, c'est le sujet sensible au cœur de la campagne présidentielle. Faut-il des augmentations massives ? Peut-on se le permettre ? Autant de questions que posera Sonia Mabrouk à partir de 8h15 à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1.
Et cette question des augmentations de salaire se pose dans de nombreux pays.
En particulier en cette période de sortie de crise sanitaire, Aurélien Fleureau, concrètement, est-ce qu'en France, on a des raisons de se plaindre de notre fiche de paie ?
Si vous prenez la carte des revenus médians de la zone euro, la France se situe devant l'Italie ou l'Espagne, mais derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves. Parmi les explications, la désindustrialisation qui a tiré les salaires français vers le bas. Et pour partager les richesses, il faut d'abord en créer, rappellent les économistes. Ensuite, ce sera le temps du débat, du choix politique. En Allemagne, les syndicats du secteur public ont demandé une augmentation des salaires de 5%. Autre exemple, le Japon, qui semble s'orienter, lui, vers des exonérations fiscales pour les entreprises qui vont augmenter les salaires. C'est une approche inédite, constate Christopher Dembick, directeur chez Saxo Bank, mais pas forcément duplicable en France.
Ce qu'on doit bien prendre en considération, c'est qu'on reste une économie de services avec aussi beaucoup de bas salaires dans les services. On le sait très très bien, notamment typiquement dans les soins à la personne. Donc il y a aussi la nécessité de revalorisation des salaires bas dans les services qui ont remplacé finalement le secteur industriel où on a eu cette désindustrialisation au cours des dernières décennies.
Et pour avoir des hausses de salaires généralisées, il faudra espérer une baisse du chômage. Dans la zone euro, le taux de 2019 avant crise pourrait être retrouvé dès l'année prochaine.
Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
Jean Castex au Vatican aujourd'hui à la rencontre du pape.
Dans un contexte houleux pour l'Église catholique française, encore sonné par la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'institution. Mais cette entrevue est un hasard du calendrier car officiellement, ce déplacement intervient dans le cadre du centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Jacques Serey, vous suivez ce déplacement pour Europe 1, loi sur le séparatisme, situation au Liban. Et on en parlait, le rapport Sauvé, le Premier ministre et le pape balayeront de nombreux sujets d'actualité.
Oui, cette visite du Premier ministre était calée de longue date et finalement elle vient percuter l'actualité. Inévitablement, Jean Castex va se retrouver tout à l'heure face au souverain pontife et aborder la question de la pédocriminalité dans l'Église. Je rappelle cette estimation du rapport Sauvé, 216 000 victimes mineures de clercs et de religieux en France depuis 1950. Alors ici au Vatican, le pape avait déjà réagi suite à cette publication. « C'est le moment de la honte », avait déclaré François avant de faire part de son immense chagrin. Alors ce matin, Jean Castex devrait se contenter de dire au pape que son gouvernement va suivre de très près ce que les évêques français vont mettre en place. Un échange d'une trentaine de minutes en tête-à-tête est prévu pour cela, mais ce ne sera pas l'unique sujet. Les questions de l'accès aux vaccins contre le coronavirus dans les pays pauvres ou encore de la protection de l'environnement seront également abordées. Pour détendre l'atmosphère et en signe de respect, c'est une tradition. Le Premier ministre ne vient pas les mains vides, il offrira au pape un exemplaire de la première édition de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et figurez-vous d'un maillot du Paris Saint-Germain dédicacé par Lionel Messi.
Merci Jacques Serey, journaliste au service politique d'Europe 1.
Jean-Yves Le Drian met une nouvelle fois la pression sur le gouvernement malien.
Qui négocie actuellement avec le fameux groupe Wagner pour assurer sa sécurité. C'est une société russe de mercenaires. Bamako accuse la France d'abandon en plein vol en raison du retrait progressif des troupes françaises de la force Barkhane. Réponse cinglante de Jean-Yves Le Drian dans l'émission C'est dans l'air hier soir. Le chef de la diplomatie française s'est montré une nouvelle fois intransigeant contre le groupe armé et sa possible arrivé au Mali. On l'écoute.
Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires qui fait la guerre par procuration pour le compte de la Russie. Mais c'est plus grave que cela, parce que lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. C'est tout à fait condamnable et ce n'est pas envisageable pour nous. C'est tout à fait incompatible avec la manière dont nous concevons la lutte contre le terrorisme au Mali.
Jean-Yves Le Drian, c'est son avertissement hier sur le plateau de C'est dans l'air.
L'actualité judiciaire, les juges se penchent à partir d'aujourd'hui sur l'affaire des sondages de l'Élysée.
Plusieurs anciens conseillers de Nicolas Sarkozy comparaissent au procès qui doit durer un mois au tribunal correctionnel de Paris. Claude Guéant, Patrick Buisson, ils sont jugés pour favoritisme, détournement de fonds publics par négligence ou encore recel de favoritisme. Certaines sociétés ont-elles été favorisées par l'Élysée pour réaliser des sondages sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au mépris des règles de marché public? C'est la question à laquelle les juges vont tenter de répondre, Gladys Laffitte.
Parmi près de 300 sondages commandés par l'Élysée entre 2007 et 2009 à plusieurs entreprises, 235 l'ont été à la société de Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. Selon les enquêteurs, ils étaient vendus avec une marge de 65%, soit un bénéfice d'1,4 million d'euros. C'est une convention signée avec l'Élysée qui régissait cet accord, en violation des règles de la dépense publique selon Anticor. Maître Jérôme Carsenti est l'avocat de l'association Anticorruption.
Ça disait, ces sondages, vous pouvez les commander sur les thèmes que vous voulez, sur la quantité que vous voulez. C'était un chèque en blanc qui était donné à Patrick Buisson. Derrière se pose en réalité la question plus profonde de l'instrumentalisation par le chef de l'État de cet argent public à des fins de communication et de propagande électorale. Et c'est derrière le sous-titre de ce dossier.
Selon la Défense, ces contrats noués avec des entreprises de confiance faisaient partie d'une tradition à l'Élysée et échappaient donc aux règles de la dépense publique. Couvert par l'immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause. Il est cité comme témoin mais n'a pas l'obligation de se présenter devant le tribunal.
Et le procès se tiendra jusqu'au 12 novembre au tribunal correctionnel de Paris.
60 ans après avoir envoyé le premier homme dans l'espace, un certain Yuri Gagarin, nouvel exploit dans le domaine spatial pour les Russes.
Avec le tournage d'un film en apesanteur. Le défi, c'est son nom pour le moment, met en scène une chirurgienne partie sauver un cosmonaute. L'actrice et le réalisateur ont passé 12 jours à bord de la Station Spatiale Internationale avant de revenir sur Terre hier matin à bord d'un vaisseau Soyouz. Le tournage a d'ailleurs continué à l'atterrissage et la scène sera elle aussi intégrée au film Une première Zoé Pallier.
Les steppes du Kazakhstan transformées en piste d'atterrissage et en plateau de cinéma, c'est ce que dévoile une journaliste de la télévision russe.
Il y a beaucoup de monde, beaucoup de caméras et la moitié d'entre elles sont en fait des caméras pour le cinéma. Parce que quand on a ouvert le sas de la capsule, elle continuait de tourner. Donc on ne vous montrera pas tous les détails aujourd'hui pour ne pas trahir le film. Vous verrez cela sur les écrans.
Des images de fiction pourtant bien réelles, diffusées en direct par l'agence spatiale russe. Le parachute qui se déploie, l'actrice qui sort de la capsule sous les applaudissements.
On nous avait dit que 12 jours dans l'espace, ça allait être assez long, mais quand ça se termine, on a comme une envie d'y retourner.
Le réalisateur, lui, a l'air hagard, le teint pâle, mais il sourit face aux caméras.
Tout est fabuleux lors du vol. Mais c'est vrai que le décollage et l'atterrissage sont incroyables.
Tous deux ont ensuite rejoint une tente médicale pour se faire examiner par de vrais spécialistes et pour tourner de nouvelles scènes.
Eh bien, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1. C'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et mon pari gagnant sera le 301 Aiguière d'Argent. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre, plus offrant après l'arrivée, c'est lui qui détient assurément les meilleurs titres. Plusieurs fois placé dans des quintés, force est de reconnaître qu'il redescend ici très nettement de catégorie et il n'aura certainement pas forcé son talent cet après-midi pour pouvoir renouer avec la victoire. Notez bien, pour Clairefontaine, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 1 est Guillère d'Argent.
Merci Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du quintet.
Bon réveil avec Europe 1, bon lundi. Le pressing arrive dans moins d'une minute.
Oui, c'est votre revue de presse décalée pour bien démarrer la semaine avec au menu la 3D au service des Amazones, regarder les Simpsons en intégralité et être payé pour ça. Puis l'incroyable chance d'une Canadienne, à tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour à tous, bon lundi matin, il est 5h12, vous êtes bien matinaux.
Ah oui.
Mais vous avez raison, car le pressing c'est maintenant et nous ne sommes pas trop de trois pour ouvrir les journaux. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Blin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux. Vent de fronde contre les éoliennes, titre aujourd'hui en France, alors que les candidats à la présidentielle se sont tous emparés du sujet. Marine Le Pen par exemple propose de les supprimer, la droite d'y renoncer, la gauche d'en implanter davantage. Tout autre sujet à la une du Figaro, guerre d'Algérie, Macron face au piège de la mémoire, titre le quotidien au surlendemain de l'hommage silencieux du chef de l'État au pot de Beson à Courbevoie pour commémorer le 60e anniversaire de la mort de manifestants algériens le 17 octobre 1961. Et puis Payette, le boss, c'est le titre à la une de l'équipe au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Lorient. Score final 4-1, le Réunionnais est impliqué sur les 4 buts de l'OM. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu ce matin?
C'est l'histoire d'un homme spécialiste des prothèses faciales. Et c'est l'histoire d'une femme qui a dû subir l'ablation d'un de ses seins pour vaincre le cancer. De leur rencontre est née une première mondiale et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui raconte leur aventure. Julien Monténero est présenté comme un réparateur des gueules cassées travaillant ponctuellement avec Médecins Sans Frontières. Il lui vient alors l'idée de mettre ses compétences au service des femmes mutilées par une chirurgie destinée à leur sauver la vie. Elles ont la vie sauve. Mais pour beaucoup, certaines gardent le sentiment d'avoir perdu une part de leur féminité. La mastectomie concerne un tiers des femmes atteintes d'un cancer du sein. Et parmi elles, eh bien, une sur cinq se font reconstruire le sein grâce à une opération chirurgicale. Qui,
d'ailleurs, n'est pas beaucoup.
Ce qui n'est pas beaucoup, donc 4 sur 5 gardent le corps sans sein, en tout cas sans l'un de leurs seins. Et cette réparation d'ailleurs chirurgicale n'a pas lieu tout de suite pour laisser le temps au tissu de cicatriser après l'ablation. Donc, grâce à cette nouvelle technologie 3D, ces Amazones, à cause de la maladie, peuvent retrouver un sein, une prothèse temporaire en attendant la reconstruction ou une prothèse définitive encore plus ressemblante au sein qui a disparu. Et la femme dont je vous parlais un petit peu plus tôt, eh bien c'est Géraldine. Elle est la première à avoir bénéficié de la prothèse, heureuse de servir de cobaye. Elle raconte avoir évité la prothèse traditionnelle, cette poche de silicone lourde, sans forme et blanche, moche. Donc, grâce à Julien Monténero, elle se retrouve donc avec une prothèse ultra réaliste, proche du sein absent, qui se glisse dans le soutien-gorge et à l'aide d'un adhésif médical, la prothèse peut même tenir toute seule. Donc sans soutien-gorge, on peut mettre des débardeurs. Pour l'élaborer, soit le sein est scanné avant d'être enlevé, soit, si une femme a déjà subi une ablation, le sein restant devient le modèle en essayant de rester au plus proche de la réalité. Voilà donc une très grande avancée pour celle qui ne souhaite pas à nouveau être opérée. Actuellement, la certification de cette nouvelle prothèse est en cours, c'est-à-dire dans le Parisien, aujourd'hui en France.
Et effectivement, les photos de l'article sont confondantes. C'est vraiment très 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 réaliste comme prothèse. On a vraiment l'impression que c'est un véritable sein. Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Est-ce que vous regardez les Simpsons?
Ça fait longtemps.
Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu.
Ouais. Dommage. J'avais un boulot pour vous. Un job de rêve pour les fans de la série. Regardez l'intégralité des 33 saisons, soit 706 épisodes, très exactement. Le tout pour un salaire de 6000 euros. C'est pas mal pour rester sur son canapé à regarder une série, surtout pour 8 semaines de travail seulement. Un travail que n'aurait sûrement pas refusé Homer Simpson d'ailleurs. C'est le site britannique Platine Casino qui propose le poste sur son site internet. Alors Platine Casino, j'ai été voir, c'est un site de jeu en ligne où vous pouvez jouer par exemple à la roulette ou au blackjack.
Alors pourquoi sont-ils prêts à payer autant d'argent?
Eh bien tout simplement pour lire l'avenir, ce n'est pas une plaisanterie, mais les Simpsons sont connus pour leurs épatantes prémonitions. Les scénaristes ont par exemple anticipé l'élection de Donald Trump ou l'arrivée d'une pandémie mondiale bien avant le Covid. Et dans l'industrie des jeux et paris en ligne, prédire l'avenir, c'est une très grande qualité. L'analyse de la série sera payée pour noter les événements marquants de la série afin de nous aider à prédire la probabilité que chacun d'eux se produise, peut-on lire sur le site. En plus des 6000 euros, le candidat retenu se verra offrir une boîte de donuts par semaine. Quoi de plus normal pour regarder les Simpsons? Un abonnement Disney Plus et le remboursement de ses frais de connexion pendant la mission, c'est pas mal. Toujours intéressé? Alors, il y a quelques critères de sélection.
Dans le canapé à manger des donuts.
Ouais, c'est pas mal. Alors, il faut être majeur, parler anglais couramment, avoir une télé ou un ordinateur et de solides compétences rédactionnelles. Moi, je pense que vous cochez toutes les cases. Hein. Donc, je vais vous envoyer le formulaire. Si vous êtes intéressé, allez sur le site Platine Casino. Ce formulaire est en ligne. Ce site vous paye pour regarder les Simpsons, c'est-à-dire sur le Huffington Post.
Oui, mais alors du coup, ça peut être des épisodes très anciens des Simpsons qui prédisent qu'à l'avenir, du coup. C'est,
c'est compliqué. Ils estiment qu'il y a peut-être des éléments qui ne se sont pas encore produits et qui vont
se produire. Qui ont eu lieu dans les années 90, voilà, par exemple. Enfin, qui ont été prédits.
Prédits dans les années 90 et qui pourraient arriver dans les années 2020. Voilà.
Incroyable. Merci beaucoup, Martin. Est-ce que vous avez rechargé les batteries pour cette longue semaine? Vous avez bien dormi ce week-end?
Non.
Pas assez.
Non, jamais. Jamais.
Mais vous n'avez pas eu des éléments perturbateurs, un moustique par exemple, ou la pendaison de crémaillère de nouveaux voisins?
Un chat qui miaule tout le temps, non, ça marche aussi?
Non, bon, écoute, vous avez eu de la chance, mais pas autant qu'une certaine Ruth Hamilton, une habitante de la ville de Golden au Canada.
I'm just thankful to be alive and be here talking to you and my family.
La sexagénaire nous dit qu'elle est soulagée d'être encore de ce monde et de ne pas avoir été tuée par un objet venant d'un autre monde. Nous sommes au soir du 2 octobre. Il est 23h30 et cela fait déjà un moment que Ruth dort paisiblement dans son lit. Elle nous raconte le site du Figaro. Elle ouvre toutefois un œil quand elle entend dans le jardin son chien aboyer. Ce n'est pas normal. Alors elle commence à relever la tête quand soudain, une grosse explosion retentit dans sa chambre. Ni une ni deux, Ruth sort de son lit, allume la lumière et découvre, stupéfaite, un trou de la taille d'un melon dans son plafond, juste au-dessus de son matelas. Paniquée et recouverte de débris, de plâtre et de contreplaqué, la Canadienne appelle immédiatement la police. Imaginez la conversation. « Allô, monsieur l'agent, j'ai un trou dans mon plafond, mais je ne sais pas ce qui l'a provoqué. » Vous avez inspecté le lit, lui répond l'agent, et c'est comme ça, en retournant un oreiller, que la sexagénaire découvre un morceau de roche lisse et anguleux, intégralement noir qu'a recouvert de suie. Ruth comprend alors que l'objet non identifié a terminé sa course à quelques centimètres de sa tête. Les aboiements de son chien lui ont probablement sauvé la vie. Reste une question, mais d'où vient ce rocher? Peut-être d'un chantier juste à côté de la maison. Les policiers vont donc interroger les ouvriers qui leur indiquent avoir vu une boule brillante dans le ciel, ce que confirment plusieurs astronomes professionnels et amateurs qui ont réussi à prendre en photo le phénomène. La conclusion s'impose donc pour les enquêteurs. Madame Hamilton, une météorite s'est invitée dans votre lit. La confirmation vient quelques jours plus tard, quand un groupe de chercheurs découvre au nord-est de la ville un autre fragment de la météorite. Cette dernière s'est donc fragmentée en entrant dans l'atmosphère. En tout cas, c'est un beau spécimen d'un kilo de sang qui a traversé le toit de la maison de Ruth. La météorite est en train d'être analysée puis sera restituée à la sexagénaire car elle est désormais propriétaire de cet objet céleste évalué au bas mot à 100 000 $, une somme qui n'impressionne pas du tout la Canadienne qui n'a aucune intention de vendre son nouveau talisman porte-bonheur comme elle l'appelle. Il faut dire qu'il y a une chance sur 4 000 milliards qu'une météorite frappe votre maison.
Effectivement, on n'a pas été perturbé à ce point-là ce week-end.
Ça doit faire très drôle comme réveil.
Donc relativisez vos courts sommeils.
Voilà, et les moustiques et les chats. Merci beaucoup Julien, c'est ainsi que se termine le pressing. Martin, on vous donne rendez-vous dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure pour le journal des sports.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. Voici les principaux titres de ce lundi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Direction le Vatican aujourd'hui pour Jean Castex qui rencontre le pape pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Hasard du calendrier alors que les Français sont toujours choqués après la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. C'est d'ailleurs un comité présidé par Jean-Marc Sauvé qui pilotera les états généraux de la justice dont le coup d'envoi est donné par Emmanuel Macron aujourd'hui à Poitiers pendant 5 mois. Tout l'écosystème judiciaire est invité à s'exprimer, tout comme certains citoyens. L'ambassadeur de France au Bélarus a quitté le pays sur ordre de Minsk. Il n'aurait jamais transmis ses créances au président Alexandre Loukachenko. La France, comme d'autres pays de l'Union européenne, n'a pas reconnu les résultats à la présidentielle d'août dernier, accordant un 6e mandat à Loukachenko. Et puis aux États-Unis, l'ex-président Bill Clinton est rentré chez lui, hospitalisé depuis mardi dernier en Californie. Il souffrait d'une infection.
5h21, bon réveil à tous. À présent, ce sont les initiatives en France, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Éric Niari.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le responsable d'exploitation de Réparseb, un lieu d'un nouveau genre qui vient d'être inauguré dans le 18e arrondissement de Paris. C'est quoi exactement Réparseb?
Alors Réparseb, c'est une joint venture sociale
qui regroupe un acteur principal de l'électroménager qui est SEB et un des acteurs majeurs de l'insertion dans l'Île-de-France qui est le groupe ARES. Et c'est donc un lieu où des salariés en insertion remettent en état des produits pour leur donner une seconde vie, mais aussi réparent les produits des clients parisiens, remettent en état les produits de tout le groupe SEB.
Et il y a aussi un aspect boutique, si j'ai bien compris. On peut acheter des produits de seconde main ?
Oui, c'est-à-dire que SEB nous envoie des produits qui ont été échangés aux clients dans le cadre de la panne à la mise en service, c'est-à-dire une utilisation d'une journée, de quelques jours, quelquefois même pas d'utilisation. Donc ces produits sont remis en état par nos salariés. Ils sont testés, ils sont reconditionnés, réparés souvent par cannibalisation. Et ils sont vendus dans notre magasin pour une partie à des prix intéressants et surtout avec une garantie de 2 ans dans tout le réseau SEB.
Quel produit vous réparez exactement ? Quel type d'électroménager ?
Il s'agit uniquement de petits électroménagers. Alors ça va de la friteuse au gros matériel de cuisson genre Cookeo, Compagnon, des grilles viande. C'est vraiment toute la gamme du petit électroménager.
Alors, précision importante, vous êtes capable de réparer toutes les marques du groupe SEB, comme Tefal ou encore Moulinex ?
Oui, Tefal, Moulinex, Roventa, Krups, Lagostina, WMF. Il y a une bonne quinzaine de marques, celles que vous venez de citer sont les marques principales.
Alors, en plus d'être un centre de réparation et une boutique de produits de seconde main, vous êtes aussi, vous l'avez dit un peu plus tôt, un atelier d'insertion. Autrement dit, vous formez des personnes qui, sans vous, n'auraient pas de travail ?
C'est en général des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais qui sont malgré tout investies dans leur projet. Ils ont envie de s'en sortir et donc ils signent chez nous des contrats qui sont des contrats à durée déterminée d'insertion, qui sont un maximum de 2 ans. C'est des contrats doubles. Ils s'engagent à bien sûr faire avancer la production et mettre tout en œuvre pour apprendre le métier, mais aussi ils s'engagent à faire avancer leur projet personnel et donc ils sont suivis personnellement par une chargée d'accompagnement qui les reçoit pour essayer de lever l'ensemble des freins à l'emploi, le logement, la santé, tout ce qui peut freiner la reprise d'un emploi stable.
Donc ces personnes n'ont pas vocation à rester de manière indéfinie chez RéparSeb, on est bien d'accord ?
Non, on est sur des contrats qui vont au maximum jusqu'à 24 mois. Il y a 4 contrats de 6 mois. Tous les 6 mois, on renouvelle ce contrat. Et voilà, on donne de nouveaux objectifs, que ce soit en termes de production ou en termes de social.
Quels sont les profils que vous avez recrutés ?
Alors, on a un petit peu tous les profils. On a des gens qui sont des primo-arrivants. On a des gens qui plutôt sont des gens qui sont restés pendant très longtemps sans travailler, qui sont tributaires des minima sociaux et qui nous sont adressés par nos prescripteurs, qui peuvent être Pôle emploi, la mission locale, et toutes les associations qui peuvent nous envoyer des candidats. On a d'ailleurs des dames qui sont là, on a 3 dames avec nous. Elles s'investissent beaucoup dans le dépannage.
D'où est venue cette idée d'associer un géant du petit électroménager à un groupe d'insertion professionnelle ? Je vous pose cette question parce que, dit comme ça, ça ne paraît pas évident de prime abord.
Non, ce n'est pas évident, mais ça part d'une idée du groupe SEB de rentrer dans l'économie circulaire. Ils ont été dans les premiers à décréter la réparabilité 10 ans des produits électroménagers. Et le fait de faire remettre en état ces produits par des salariés en insertion, ça boucle la boucle quelque part. C'est un très joli support pour l'insertion en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose qui a un sens. Nos salariés ont vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile et c'est vraiment agréable pour nous de les voir progresser sur le sujet.
La réparation au service de l'insertion. Merci beaucoup Eric Niari de nous avoir présenté RéparSeb. On vous trouve rue de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Merci encore et bonne journée à vous.
Oui, merci. À bientôt. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est bientôt 5h28 et j'espère que votre réveil est très agréable en notre compagnie. On pense à vous si vous êtes déjà au travail ou sur le point de partir. Quoi qu'il en soit, je vous invite à rester à l'écoute car on a encore plein de rendez-vous à vous proposer, notamment la prescription culture dans un quart d'heure. Marie Jiquel a choisi la série Succession dont la saison 3 arrive aujourd'hui sur les écrans français. Mais juste avant, Omblin, on va parler douleurs.
Oui, les douleurs articulaires, musculaires, les migraines, les douleurs chroniques. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la douleur, une souffrance physique qui entraîne entraîne souvent des souffrances sociales. Selon la Société française d'études et de traitement de la douleur, elle est un défi majeur pour la santé publique. Nous serons avec sa présidente, Valéria Martinez, qui est professeure anesthésiste à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en région parisienne.
Mais avant, la météo du jour va-t-elle nous faire oublier que le week-end est fini, Anissa Haddadi ? En tout cas, il y a de la fraîcheur ce matin.
Oui, bah, comme tous les matins là, pour ce début d'automne, c'est vrai qu'on a un ciel très dégagé. Et donc, du coup, les températures sont fraîches. On a 0 degré à Charleville-Mézières, on a 2 degrés à Colmar, 3 à Aurillac et Belfort. Couvrez-vous, 5 degrés à Lille et Lyon, 7 à Paris, 9 à Rennes. Alors, dans le nord-ouest, on a 12 degrés par exemple à Saint-Brieuc, comme à Nice. On a 13 degrés à Brest, 14 à Quimper et Lorient, c'est là qui fait le plus doux ce matin. Parce qu'on a beaucoup de nuages. Dans l'après-midi, grâce à un vent du sud qui va souffler sur tout le pays et surtout sur les côtes de la Manche, eh bien nous avons des températures en hausse. Rien à voir cet après-midi avec ce week-end. On aura 19 degrés à Paris et Besançon, 21 degrés à Clermont-Ferrand, 23 à Bastia, 24 degrés pour Toulouse, 25 à Bordeaux et ça va continuer de grimper demain. Demain, on aura véritablement un bon pic de chaleur sur l'ensemble du pays. Alors dans le ciel, on a beaucoup de brouillard ce matin. Soyez prudents sur tout le long de la façade atlantique, sur le quart nord. Nord-est, dans le sud, on a des entrées maritimes dans le Languedoc. Et puis cet après-midi, on a du beau temps quasi partout, sauf malheureusement pour les Bretons, pour les Nantais et pour les Cherbourgeois. Voilà, dans ces régions, c'est gris, il y a de la pluie. Et puis tout le long de la façade atlantique, c'est maussade.
Attention en tout cas à ne pas tomber malade avec cette alternance de froid et de chaud.
Ouais.
C'est la saison à risque, n'est-ce pas, Omblin ? Et pour moi-même, on
a beaucoup éternué ce matin.
Ouais, on a la voix un peu enrouée ce matin. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est votre journal.
Europe 1.
On a des milliers de bugs informatiques. Aujourd'hui, il y a certaines cartes qui annoncent des délais de traitement qui sont supérieurs à 15 semaines. Ça peut créer une certaine tension parce que ça sert quand même à payer une partie du loyer, quoi.
Cet employé d'une caisse d'allocation familiale en témoigne. Les pannes informatiques à répétition mettent tout le monde à cran. À la CAF comme à Pôle emploi, la situation au guichet devient explosive. C'est le résultat d'une enquête interne qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Des courriers antisémites glissés dans des dizaines de boîtes aux lettres de Romainville en Seine-Saint-Denis. La préfecture promet de faire tout son possible pour identifier le ou les auteurs. Et puis la Haute-Marne, ça vous gagne. Le département lance une grande opération séduction pour attirer les citadins et notamment les Parisiens.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça faisait quelque temps déjà que l'atmosphère sentait le soufre dans les caisses d'allocations familiales et dans les caisses de Pôle emploi. Jusque-là, on pensait qu'il s'agissait de phénomènes isolés, mais l'enquête interne qu'Europe 1 a consultée prouve le contraire. La réforme des aides au logement et de l'assurance chômage ont fait monter l'attention d'un cran au guichet. Les employés doivent gérer le comportement de plus en plus agressif d'usagers en colère. C'est le résultat d'une consultation interne menée par la CFDT, Carole.
Alors écoutez, selon cette enquête, plus d'un agent sur cinq trouve que ses relations avec les usagers sont tendues, que ce soit à Pôle emploi ou dans les caisses d'allocations familiales. Beaucoup d'accueils ont désormais des vigiles qui limitent les débordements. Mais au téléphone, ils dénoncent des insultes quotidiennes, beaucoup d'agressivité. Première cause mise en avant, les bugs informatiques, aussi bien pour les usagers que pour l'administration. Selon Christophe Ledoux, employé à la CAF d'Amiens, la réforme des APL a particulièrement attisé les colères depuis le début de l'année.
La problématique de la réforme de l'aide au logement, c'est qu'elle ne passe pas informatiquement depuis le début de l'année. Donc on a des milliers de bugs informatiques qui font que forcément le personnel doit reprendre les dossiers. Donc on perd du temps. Aujourd'hui, il y a certaines CAF qui annoncent des délais de traitement qui sont supérieurs à 15 semaines. Et donc forcément, ça peut créer une certaine tension parce que ça sert quand même à payer une partie du loyer, quoi.
Et la Caisse nationale d'allocation familiale reconnaît que cette réforme des APL a en effet entraîné des dysfonctionnements informatiques et des retards pour près de 2% des 6 millions de dossiers, soit environ 120 000 bénéficiaires.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Après le Beauvau de la sécurité, voici venu le temps des états généraux de la justice.
Emmanuel Macron ouvre les travaux aujourd'hui à Poitiers. Cette vaste réflexion sur l'état et le fonctionnement de la justice doit durer 5 mois et sera répartie en 3 phases. La première prévoit entre autres une consultation citoyenne via un questionnaire accessible sur Internet. Une phase d'expertise et de synthèse suivront. Les propositions devront être finalisées pour février 2022.
En Seine-Saint-Denis, des courriers antisémites sèment le trouble parmi les habitants de Romainville.
Plusieurs dizaines de lettres déposées dans les boîtes de particuliers à l'intérieur des coupures de presse annotées, voire réécrites à la main. Banquier juif Ripoux, peut-on lire sur l'une d'elles, le reste est du même tonneau. La préfecture affirme qu'elle fera tout pour identifier le ou les auteurs. Samy Gozlan, le président du Bureau national de vigilance et de lutte contre l'antisémitisme, a porté plainte.
de la colère, de l'inquiétude, parce que toutes les dispositions qui sont mises en place eh bien, n'ont pas véritablement d'effet. Et on voit que les activistes antisémites n'hésitent pas à s'exprimer et à insulter et à menacer. Ils sont en train de relever la tête. Et là, aujourd'hui, évidemment, ça devient quelque chose de banalisé. Et c'est la continuité d'un phénomène qui est en train de s'amplifier un peu partout. D'ailleurs, je pense que la plupart des familles juives qui ont reçu ces publications vont se poser aujourd'hui des questions pour savoir si elles restent dans le département et si elles quittent ce département. Il y a beaucoup de villes qui sont aujourd'hui désertées de la communauté juive. Voilà, la plupart des communautés perdent leurs fidèles. Et j'allais dire que c'est une forme de désespoir. Voilà, en quelque sorte.
Propos recueillis par Marion Gauthier. Romainville a déjà été confronté à l'antisémitisme. En février dernier, une cinquantaine de tags représentant des étoiles de David avaient recouvert du mobilier urbain, en centre-ville notamment. Un suspect avait été rapidement interpellé, puis interné en hôpital psychiatrique, vu son état de santé mentale.
La hausse du PIB sera-t-elle de 4% ou plus en 2022? Eh bien, ça dépendra de certains paramètres, et notamment des ménages.
Vont-ils puiser dans leur bas de laine ou non? Et dans quelle proportion? Telle est la question que se posent les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'excès d'épargne devrait atteindre 170 milliards d'euros à la fin de l'année. L'OFCE envisage deux scénarios pour la croissance en fonction du comportement des ménages prudents ou dépensiers. Dans le premier cas, ce sera plus 4,1% pour le PIB. Dans le second, il s'envolerait à 6,2% l'année prochaine.
La croissance, mais également les hausses de salaire et l'inflation des prix de l'énergie. Autant de thèmes qui seront abordés à partir de 8h15 avec l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Voilà une information qui va intéresser les citadins en manque d'espace. La Haute-Marne est prête à les accueillir.
Le département veut lutter contre la désertification qui le menace. Il s'est lancé dans une opération séduction ce week-end à destination des Parisiens, de plus en plus nombreux à franchir le pas. Témoins les écoles parisiennes qui enregistrent une baisse de 6000 élèves pour cette seule rentrée. Un début d'exode dont les autres régions entendent bien profiter. La Haute-Marne a donc sorti le grand jeu à l'occasion d'une journée portes ouvertes ce week-end. Reportage Mélina Fachin.
Je suis d'abord ravie de vous accueillir et en Haute-Marne et à Nogent.
Une quinzaine de familles parisiennes choyées tout le week-end ici dans le département le moins peuplé du Grand Est. Visite de logement ou encore rencontre autour d'un cocktail avec des recruteurs.
Vous m'enverrez votre CV, votre parcours, et je vous garantis que d'ici quelques semaines, vous aurez des nouvelles.
Okay. Car avec un taux de chômage de 6,5%, il y a du travail en Haute-Marne. Djellali Chaou, directeur départemental de Pôle emploi.
À la date d'aujourd'hui, on a 1000 offres dans tous les secteurs, tous les profils. Donc c'est effectivement une période extrêmement faste.
Pour Anne-Claude, son mari Patrick et leurs trois garçons, il s'agit surtout de gagner en qualité de vie.
On habite dans un appartement pour 900 euros de loyer, donc une maison et un jardin. Oh oui.
J'ai pas envie de changer d'école, mais c'est la nature, il y a les oiseaux, il y a du silence et on peut pêcher.
Si on pouvait venir au Marnais, c'est ça, c'est ça? Bon, on sera au Marnais dès aujourd'hui, si on pouvait. Hein.
J'étais à 100%, là je suis à 200%.
Et comme eux, quasiment toutes les familles venues ce week-end en Haute-Marne sont reparties hier soir vers Paris avec la ferme intention de ne plus y rester très longtemps. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1.
La fin de la 10e journée de Ligue 1, Marseille monte sur le podium après son succès 4-1 hier soir face à Lorient. Le tennis avec le tournoi d'Indian Wells, l'un des grands rendez-vous de la saison. Victoire du Britannique Cameron Norrie chez les hommes et de l'Espagnol Paula Badoza chez les femmes.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Clairefontaine, tout proche de Deauville, pour un Quintet qui réunira 15 poulains et pouliches âgés de 3 ans et non 16, comme initialement prévu, le numéro 3 ayant déclaré forfait. Difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 7, High Lady, une pouliche d'une louable régularité dans cette catégorie des quintés, 4 fois dans les 5 premiers en 6 tentatives, et comme je sais qu'elle est restée dans un état de forme optimal en cette fin de saison, nul doute qu'elle devrait pouvoir une nouvelle fois conclure à l'arrivée. On lui opposera les numéros 2, Bella Ciao Ciao, irréprochable depuis le début de sa carrière, et à suivre en confiance pour son premier essai à ce niveau, 1. Prince de Montfort, facile lauréat d'un quintet le 5 octobre sur l'hippodrome de Chantilly et qui sur sa lancée me semble être encore compétitif, et 12. American Park, pour lequel son entraîneur Fabrice Chappet ne m'a pas dissimulé sa confiance. Enfin les numéros 8, Galima, 4 rue des Irlandais, 10 Sotevast et 16 Irish Class compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 2, As, 12, 8, 4, 10 et 16.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Il est 5h38, nous sommes le lundi 18 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre la douleur. On y revient tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous et bon réveil. Il est 5h40, nous sommes le 18 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre la douleur. À cette occasion, la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui organise aujourd'hui un colloque national au ministère de la Santé, souhaite alerter le gouvernement face à, je cite, la dégradation des politiques de prise en charge de la douleur en France. Et pour en parler, Omblin, nous sommes avec la présidente de cette société savante, Valéria Martinez.
Bonjour.
Vous êtes professeure anesthésiste et spécialiste de la douleur à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Selon la Société française d'études et de traitement de la douleur, un Français sur cinq souffre de façon chronique. En quoi la prise en charge de la douleur est un défi majeur pour la santé publique ?
La douleur chronique est déjà une très particulière. Hein. Ce n'est pas la douleur aiguë, et ça c'est important de différencier. On définit la douleur chronique comme une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. Et donc, en fait, elle perd son signal d'alarme. Hein. Une douleur aiguë, c'est une alarme, il faut la traiter rapidement, et elle montre qu'il y a un problème aigu derrière. Alors que la douleur chronique, en fait, elle s'installe, elle devient inutile dans sa fonction d'alarme, mais elle va apporter beaucoup de chronicité, c'est-à-dire qu'elle va entraîner fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression, des patients qui n'arrivent plus à faire leur travail, qui se désocialisent, qui ont des problèmes de famille. Et donc tout ça, ça en fait une maladie en part entière. Et certains de ces patients ont des douleurs tellement intenses, tellement réfractaires, qu'ils sont vraiment très atteints et ont besoin d'aller vers des structures spécialisées pour les prendre en charge.
Elle est source de handicap, d'inactivité aussi, d'isolement social. Donc c'est vraiment un problème qui est assez vaste. Comment peut-on le traiter ?
Pour le traiter, il y a d'abord des prises en charge médicamenteuses qui ciblent en fait les mécanismes de la douleur. En particulier, par exemple, les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs qui sont extrêmement intenses et réfractaires à la prise en charge habituelle, puisque en fait, c'est des lésions ou une maladie du système nerveux. Ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être un traumatisme de la vie quotidienne, une chirurgie qui va léser un nerf et qui va entraîner des séquelles après la chirurgie. Donc, c'est extrêmement fréquent. Une douleur de zona, c'est également une douleur neuropathique. Ces douleurs, elles sont extrêmement intenses et elles ont des traitements spécifiques qu'il faut connaître. Il faut que les spécialistes, les médecins, les soignants connaissent ces traitements spécifiques. Et puis, il y a d'autres traitements qui sont arrivés plus récemment, qui sont extrêmement localisés, qui peuvent se donner dans les structures douleurs, qui peuvent permettre de soulager les douleurs.
Des nouveaux traitements aussi tels que, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un nouveau traitement, mais tels que l'hypnose aussi, est-ce que des médecines douces, si on peut appeler ça aussi comme ça, est-ce que ça peut être efficace également ?
Alors, tout à fait. Il y a des traitements qu'on appelle non médicamenteux qui accompagnent le patient pour mieux vivre avec ses douleurs. Il faut savoir que les douleurs chroniques, elles sont là toute la vie, en fait. On peut les soulager, on peut diminuer le retentissement, mais les faire disparaître, c'est très difficile. Par contre, mieux vivre avec, ça, c'est tout à fait possible. Les soulager, les diminuer, c'est possible. Et les traitements non médicamenteux, comme l'hypnose, la méditation en pleine conscience, certaines techniques de relaxation, peuvent aider les patients à mieux vivre et à avoir moins de retentissement de ces douleurs dans leur sommeil, leur anxiété, leur qualité de vie, qui est souvent très atteinte.
Vous êtes médecin anesthésiste, je le rappelle, à l'hôpital Raymond Poincaré. Vous êtes confronté à des douleurs impossibles à apaiser ?
Oui, malheureusement, oui. Certaines douleurs chroniques sont réfractaires à plusieurs traitements. Et dans les structures spécialisées, dans les centres de la douleur, nous essayons les derniers traitements, parfois des traitements qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché. Nous faisons aussi de la recherche pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de la douleur, pour mettre en place ces traitements dans le cadre d'essais thérapeutiques, pour essayer de trouver des solutions.
Les médecins sont-ils suffisamment formés aujourd'hui, suffisamment bien formés concernant la prise en charge et le traitement de la douleur, selon vous ?
Je dirais oui et non. Alors, on est mieux formés qu'avant. À mon époque, oui. On n'avait que 2 heures de formation douleur dans le deuxième cycle. C'est-à-dire, au bout de 6 ans de médecine, j'ai eu moins que 2 heures de formation. Donc, la formation de la douleur a été pour moi après, dans le cadre de spécialisation spécifique, comme la capacité douleur. Actuellement, les étudiants de médecine sont un peu plus formés et les dernières réformes médicales vont dans le bon sens. C'est-à-dire que maintenant, on s'attend à 20 heures, 30 heures de cours autour de la douleur. Mais c'est très peu par rapport aux 1500 heures qu'il peut y avoir au cours d'un cursus de médecin. On n'en parle pas assez. Et donc, il faut une formation qui soit aussi continue au cours tout au long de la vie et pour tout le monde, pour les soignants, pour les infirmiers, pour toutes les personnes qui vont prendre en charge les patients douloureux. C'est très important de continuer cette formation continue, savoir dépister la douleur, savoir l'évaluer et savoir l'orienter également quand il y a des douleurs qui sont réfractaires et qui ne sont pas bien soulagées par une prise en charge en soins primaires.
Vous organisez aujourd'hui un colloque national au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Qu'attendez-vous du gouvernement et je vais plus loin, des candidats à l'élection présidentielle ?
Écoutez, oui, en effet, cette journée est très importante pour nous pour partager un constat que nous sommes à un moment important de la prise en charge de la douleur et qu'il est primordial d'agir maintenant. Mais aujourd'hui, nous sommes inquiets puisqu'en fait, la dynamique s'est essoufflée depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas de plan douleur en France. Et donc, nous attendons maintenant des mesures concrètes et surtout qu'on ouvre la possibilité de ce 4e plan douleur qui, ça fait 10 ans, qui s'est stoppé.
Merci beaucoup, Valérie Martinez. Vous êtes professeure anesthésiste à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, présidente de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci, au revoir.
On en vient à la prescription culture et le lundi à 5h45, on s'intéresse aux séries avec Marie Jiquel.
Bonjour Marie.
Bonjour Omeline, bonjour Julien.
On a qualifié cette série de Game of Thrones, des cadres dirigeants, une fratrie convoite la place de PDG de leur père, richissime patron d'un empire médiatique. Donc Marie, c'est le retour de la série Succession.
Avec ce générique qui vous plonge immédiatement dans cette atmosphère de luxuriance malsaine, l'histoire se déroule entre New York, dans les bureaux façon Trump Tower de la société du père, et les villas secondaires à travers le pays. Le père, royalement interprété par Brian Cox, c'est le Rupert Murdoch de la télévision, un mania de la presse millionnaire qui commence à se faire vieux et va devoir songer à son remplaçant. Il s'appelle Logan Roy et c'est un personnage odieux.
Vous voulez entendre mon passage préféré de Shakespeare ? Prenez le fric, bordel.
Face à lui, ses 4 enfants habitués au luxe et moins à l'entrepreneuriat, ils s'essayent à la politique, s'adonnent aux drogues, paraissent tous détraqués et se disputent tous le puissant fauteuil de leur père.
Je voulais pas aborder le sujet pour l'instant, mais je viens de m'entretenir avec le comité de nomination. Et... il pense que je devrais remplacer papa et il nous conseille de donner une conférence de presse.
Hors de question.
Je te demande pardon. Pourquoi ça ?
Alors la série rappelle certains épisodes de l'Antiquité où les pères tuent leurs enfants pour ne jamais être menacés par eux.
Et tout à fait, pour cette saison 3, il se pourrait bien que cela soit le contraire, aux enfants de prendre leur revanche. Durant les 2 premières saisons, on assiste aux trahisons, aux coups tordus du père, mais la saison 3 commence avec la rébellion du fils Kendall, le fils le plus blessé, car on lui avait promis le trône dès les premiers épisodes de cette série. À la réalisation, on retrouve l'anglais Jesse Armstrong, que vous connaissez pour une autre série à l'ambiance tout aussi maladive, Black Mirror.
Effectivement, oui.
Enfin, la série dramatique a été maintes fois primée par les Emmy Awards. Ce sont les Oscars de la télévision aux États-Unis. Et puis, pour la petite info, l'un des budgets les plus importants de Succession est accordé à la location des domaines châteaux, ranch et autres triplex aux 1000 boiseries à New York. Alors, ça fait rêver, mais on n'a pas très envie d'être invité à la table de Logan Roy. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de la série, le podcast européen Sériland avait consacré l'un de ses épisodes à Succession.
Et c'est la meilleure, paraît-il, meilleure série américaine du moment, Succession. La saison 3, c'est à voir sur OCS. Merci beaucoup Marie Jiquel et à la semaine prochaine.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h48 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce lundi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Plus d'un agent de Pôle emploi et de la CAF sur 5 trouve les relations avec les usagers tendues. Résultat d'un sondage de la CFDT qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Les raisons, les bugs informatiques, mais aussi les réformes des APL et de l'assurance chômage. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi des états généraux de la justice. Aujourd'hui, à Poitiers, les débats dureront 5 mois. 5 mois pour proposer des réformes et remettre à plat le système judiciaire. Ouverture du procès des sondages de l'Élysée aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Plusieurs proches de Nicolas Sarkozy comparaissent, notamment pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence, protégé par son immunité présidentielle. Nicolas Sarkozy n'est pas jugé. Et puis 60 ans après la manifestation du 17 octobre 1961 et le massacre de manifestants algériens, notamment jetés dans la Seine par la police à Paris, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a déposé une gerbe au bord de la Seine, le premier à le faire. 1800 personnes ont défilé dans la capitale.
Europe Matin.
L'actualité de ce lundi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. On sélectionne chaque matin un article de la presse locale et c'est celui ou celle qui l'a écrit qui nous le raconte.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour Julien Pierce.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan où l'on peut lire ce matin un article sur le début aujourd'hui d'un procès à Cardiff au Pays de Galles. Procès de l'homme qui aurait dû piloter l'avion dont le crash en mer a coûté la vie à l'ancien attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala.
Eh oui, absolument, c'est le procès de David Anderson. Alors attention à ne pas confondre avec David Higginson qui pilotait cet avion, et David Anderson qui ne s'est jamais exprimé depuis la mort d'Emiliano Sala, est poursuivi par la Civil Aviation Authority, excusez-moi pour l'accent, c'est le régulateur de l'aviation civile au Royaume-Uni, pour deux infractions relatives à la réglementation sur la navigation aérienne. Et puis il lui est aussi reproché d'avoir joué le rôle d'intermédiaire pour organiser ce vol dramatique qui a coûté la vie à l'avant-centre du FC Nantes.
En gros, il explique qu'il n'a pas pu assurer ce vol pour des raisons familiales et qu'il a recommandé un ami, c'est ça ?
Voilà, absolument. Le problème, c'est que cet ami, David Higginson, donc, n'avait pas la licence pour piloter de nuit et il avait en plus quelques problèmes de santé.
Ce procès va être évidemment scruté de très près du côté de la région nantaise où a évolué pendant quelques années Emiliano Sala et qui a disparu il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Oui, un peu plus de 2 ans puisque c'était le 21 janvier 2019. Mais Emiliano Sala, il est toujours très très présent dans le souvenir des supporters nantais qui toujours à la 9e minute scandent son nom. Et Emiliano Sala, il a aussi beaucoup manqué l'an dernier au FC Nantes, dont on se souvient que le club canari ne s'est sauvé que lors des barrages.
Où en est le litige financier entre le FC Nantes et le club de Cardiff, hein, parce que pour rappel, les Canaries réclament 17 millions d'euros pour le transfert d'Emiliano Sala, somme qu'ils n'ont jamais touchée.
Et Cardiff City refuse toujours de payer. Alors la FIFA avait donné raison au FC Nantes en enjoignant Cardiff City, c'était en septembre 2019, de s'acquitter de la première tranche de 6 millions d'euros. Mais le club gallois, lui, il a fait appel de cette décision et il a saisi le tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Normalement, c'est ce lundi que l'on devrait connaître la date précise de l'évocation de cette affaire. Ce sera sans doute en mars prochain devant le tribunal arbitral du sport.
Merci beaucoup Pierre-Marie Herriot de nous avoir fait découvrir ces articles à lire aujourd'hui donc dans Presse Océan. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci Julien, à bientôt.
Europe Matin.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
passion.
Il revient après 8 années d'absence, Stromae et son dernier titre Santé qui sera présent sur le futur album du chanteur belge dont on ignore pour l'heure la date de sortie.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h55 et au programme de la prochaine demi-heure, Julien, on va s'intéresser à deux instruments qui pourraient révolutionner la recherche.
Deux instruments spatiaux, l'un a été envoyé samedi, c'est la sonde Lucie qui doit observer des astéroïdes très mystérieux près de Saturne, et l'autre c'est le télescope spatial James Webb qui doit remplacer le vénérable Hubble. Son lancement est prévu en décembre et c'est un bijou de technologie, 30 ans de développement, 10 milliards de dollars. Ce télescope va avoir pour mission de percer les origines de l'univers. Que s'est-il passé exactement après le Big Bang? Sommes-nous seuls? Questions passionnantes et réponses qui le seront tout autant avec notre invité dans un quart d'heure, l'astrophysicien Michel Vizeau. On écoutera ensuite, ma chère Omblin, votre partition.
Si vous ne les connaissez pas encore, eh bien je vous propose de faire la connaissance de The Celtic Social Club. Quand rock, pop se marie à merveille avec violon et cornemuse de la musique celte de Celtic Social Club. Dans la partition, à suivre également la météo et le journal. À tout de suite.
Il est 6h. C'était l'un des leaders du recyclage de papier en France. L'usine de la Chapelle d'Arblay change de propriétaire pour produire de l'hydrogène, du gâchis pour les salariés et la métropole de Rouen qui compte bien s'interposer dans la transaction. Le procès en appel du gendre d'Hélène Pastor. L'homme avait été condamné en première instance pour avoir commandité l'assassinat de la milliardaire monégasque en 2004. Et puis J-68 avant Noël, l'heure de réfléchir aux cadeaux à mettre sous le sapin. Parmi les incontournables, la nouvelle Switch OLED de Nintendo. Oui, mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Réponse avec notre spécialiste jeux vidéo.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. C'est l'un des symboles de la désindustrialisation de la France et il ne manquera pas de faire réagir Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances est notre invité spécial à 8h13 sur Europe 1.
Vendredi, le propriétaire de la papeterie de la Chapelle d'Arblay, l'un des plus grands sites de recyclage en France, a annoncé la vente de l'usine par le français Samfi Paprec.
Ce nouveau repreneur mise sur la production d'hydrogène, changement radical donc, alors que les machines quasi-centenaires sont capables de recycler le papier d'un tiers des Français. Le reportage de Thibaut Hu.
Alors que la logique voulait que Veolia, numéro 1 mondial du retraitement, reprenne la papeterie UPM, elle n'est pas retenue. C'est l'entreprise Samfi Invest qui rachète le site et va détruire toutes les machines pour faire produire de l'hydrogène. Pour Aurélien Dossert, délégué du personnel, c'est une aberration économique.
On détruit l'outil de production. C'est-à-dire que les machines à papier, je rappelle que c'est quand même un investissement de plus de 550 ou 600 millions d'euros depuis ces 30 dernières années. Gâcher les potentialités de cet outil, oui, ça nous met en colère, bien sûr. Et de surcroît, quand ces machines sont orientées vers des problématiques de recyclage.
Dernière chance pour Chapelle d'Arblay, la métropole projette de préempter et s'oppose au projet de vente. Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole.
Est-ce qu'on veut, oui ou non, réindustrialiser la France, mais avec une industrie d'avenir? C'est pour ça qu'on n'hésitera pas à utiliser notre droit de préemption pour favoriser un avenir tourné vers l'économie circulaire sur notre territoire.
La métropole a 2 mois pour préempter et attend l'acte de vente du PM. Rouen, Thibaut Hu. Europe 1.
Facebook recrute 10 000 emplois en Europe d'ici 5 ans.
Des nouvelles recrues pour travailler sur les métaverses. Alors c'est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via Internet. Un univers parallèle qui permettrait, je vous donne un exemple, de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres. Alors le géant des réseaux sociaux n'a pas encore précisé les pays concernés par ces milliers d'embauches. C'est une affaire qui avait bousculé la tranquillité du paisible rocher monégasque. L'assassinat de la milliardaire Hélène Pastor, tuée par balle en mai 2014. Le dossier rejugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur le banc des accusés, les tireurs présumés, un intermédiaire et le propre gendre d'Hélène Pastor, condamné à la perpétuité pour avoir commandité cet assassinat en première instance, Stéphane Burgat.
Des rebondissements ne sont pas à écarter. Tout d'abord, Wojciech Janowski, le gendre d'Hélène Pastor, commanditaire présumé
présumé et reconnu coupable en première instance, cet ancien consul honoraire de Pologne à Monaco, présenté comme aux abois financièrement, a multiplié les volte-face en revenant notamment sur ses aveux faits aux enquêteurs. Sa défense entend démonter le mobile financier. Et puis son grand déballage médiatique cette semaine donne le ton de ce procès. Gildo, le fils d'Hélène Pastor, accable désormais Sylvia, sa sœur, ex-compagne de Wojciech Janowski. Gildo Pastor décrit une femme très intéressée par la fortune de sa mère qui se plaignait d'être une vache à traire. Gildo Pastor s'interroge publiquement. L'enquête a-t-elle été poussée jusqu'au bout ? Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Le début d'un procès qui va durer un mois jusqu'au 19 novembre prochain.
On en vient à la situation entre la France et le Mali. Et l'hypothèse Wagner fait monter la pression. Cette société militaire russe en négociation avec Bamako envisagerait de déployer près d'un millier de mercenaires dans le pays d'Afrique.
Le Mali accuse la France de l'avoir abandonné en plein vol à cause du retrait progressif des troupes de l'opération Barkhane. Réponse hier de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères était l'invité de l'émission C'est dans l'air, où il a rappelé son opposition catégorique à la présence de cette société russe au Mali.
Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires qui fait la guerre par procuration pour le compte de la Russie. Mais c'est plus grave que cela, parce que lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine. Où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. C'est tout à fait condamnable et ce n'est pas envisageable pour nous. C'est tout à fait incompatible avec la manière dont nous concevons la lutte contre le terrorisme au Mali.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, à travers le groupe Wagner, pointe du doigt l'influence de la Russie au Mali.
Une influence qui s'empare aussi des plus hautes sphères de l'État français. Bernard Bajolet, ancien directeur des renseignements extérieurs, a indiqué hier qu'une taupe au service du Kremlin travaillait au sein du cabinet du ministère français de la Défense en 2017.
Quand est-ce que vous avez prévu de commencer vos cadeaux de Noël ? Il ne va pas falloir trop tarder, surtout si vous voulez une Switch OLED sur votre liste.
C'est le dernier né du géant japonais Nintendo, sorti ce mois-ci. Clément Le Saffre, vous êtes le spécialiste jeux vidéo d'Europe 1 et vous avez testé cette nouvelle console. Verdict, est-ce qu'on craque ou pas ?
Eh bien, disons-le franchement, ce n'est pas une révolution. Cette nouvelle version de la Switch ne présente qu'une seule réelle nouveauté, son écran. Nintendo a remplacé la dalle LCD par un écran OLED, plus grand de 2 cm en diagonale. Il est aussi beaucoup plus lumineux. Avec la technologie OLED, chaque pixel produit sa propre lumière. Pas besoin donc de rétroéclairage, ce qui offre des contrastes saisissants et des couleurs éclatantes quand on utilise la Switch en mode portable. Un vrai bonheur quand on explore les mondes colorés des jeux de Mario. Un bel écran, mais rien de plus sous le capot. Nintendo n'a pas changé le processeur, donc cette Switch OLED n'est pas plus puissante que le modèle précédent. Dommage, d'autant qu'à 350 euros la version OLED contre 270 pour la classique, un petit coup de boost aurait été le bienvenu. Résultat des courses, si vous n'avez pas de Switch à la maison, bien craquez directement pour le modèle OLED. En revanche, si vous avez déjà la Switch originale, il n'y a que peu d'intérêt à sortir le portefeuille.
Un sacré portefeuille, 350 euros nous disait Clément Le Saffre, spécialiste jeux vidéo d'Europe 1.
C'était le journal qui n'a pas de prix de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et l'OM qui renoue avec la victoire.
Oui, dans un stade Vélodrome incandescent pour le premier match des Marseillais à domicile depuis le décès du boss Bernard Tapie. Les joueurs de Roré et Sampaoli se sont fait plaisir hier soir. Victoire 4-1. Menée après un quart d'heure de jeu suite à un pénalty l'orienté, les Marseillais sont revenus avant la mi-temps, puis ont survolé le deuxième acte. Un passeur décisif, puis buteur. Le milieu de terrain Matteo Guendouzi savoure la performance de son équipe.
On sait qu'on a eu un coup de moins bien juste avant la trêve, donc c'était important de bien repartir et on a réussi à le faire. On est resté focus sur ce qu'on avait à faire et on s'est dit qu'il fallait continuer de croire en notre idéologie de jeu et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir et c'est pour ça qu'on a réussi à marquer 4 buts et à gagner ce match. Et voilà, on est sur le podium aujourd'hui, on est avec un match de retard donc c'est déjà très bien et on va essayer de continuer comme ça, engranger le maximum de points que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe.
Matteo Guendouzi au micro Europe 1 de Stéphane Burgat. Dans les autres matchs de la journée, Nice tombe chez le promu 3-1-0, Rennes écrase Metz 3-0 et Saint-Etienne n'y arrive toujours pas, corrigé par Strasbourg. Les Verts qui n'ont toujours pas gagné après 10 journées sont bons derniers. devant. Paris continue de faire la course en tête devant Lens et Marseille.
Il y avait du judo aussi ce week-end.
Oui, avec le tournoi de Paris-Bercy qui faisait son grand retour, hein, plus d'un an et demi après sa dernière édition. En l'absence des médaillés olympiques, hein, pour la plupart en phase de repos, l'équipe de France n'a pas ramené de titre, mais elle a fait le plein de médailles, 14 en tout. Et c'était surtout l'occasion pour la nouvelle génération, hein, la fameuse génération Paris 2024, de se montrer à l'image de Shirine Bouklil, 22 ans, qui empoche le bronze en moins de 48 kilos.
Je suis vraiment super contente et voilà, je voulais une belle médaille à la fin de cette journée. C'est la compète de reprise et voilà, après toute cette frustration et cette pause, je voulais repartir de plus belle et voilà, aller chercher cette breloque à la fin et je suis très très fière de moi.
Trois infos en bref pour finir, Martin.
Scène incroyable à Nîmes aux Pays-Bas où une tribune s'est effondrée sous le poids des supporters du Vitesse Arnhem. Hein, des images qui rappellent les pires tragédies de l'histoire du foot, hein, du Heysel à Furiani. Heureusement, à plus de peur que de mal, l'accident n'a fait aucun blessé. Rugby et Toulouse qui chutent pour la première fois de la saison. Hein, défaite 25 à 19 à Lyon. Les Toulousains restent leaders du top 14. Les Lyonnais, eux, sont troisièmes. Et puis du tennis et deux vainqueurs surprises à Indian Wells. Hein, l'Espagnol Paola Badosa chez les femmes et l'Anglais Cameron Norrie chez les hommes. Hein, pour l'un comme pour l'autre, c'est le premier titre à ce niveau.
Merci, c'était le journal des sports avec Martin Lange. Merci Martin.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous. Nous serons en ligne dans un instant avec l'astrophysicien Michel Vizeau pour le lancement avant-hier d'une sonde de la NASA et celui à venir du télescope spatial James Webb. Deux instruments qui vont nous permettre d'en savoir plus sur l'origine de l'univers. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. Samedi, la NASA a lancé pour la première fois une sonde vers les astéroïdes troyens, deux groupes d'astéroïdes mystérieux situés sur l'orbite de Jupiter. Ils pourraient nous permettre de mieux comprendre la formation du système solaire. Pour nous éclairer, Julien, nous sommes en ligne avec l'astrophysicien Michel Vizeau, ancien responsable du programme d'exobiologie au CNES.
Bonjour Michel Vizeau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Cette sonde qui s'appelle Lucie, en référence au célèbre fossile d'Australopithèque, a pour mission d'étudier ces astéroïdes dits troyens. Quelle est leur particularité? Pourquoi s'y intéresser?
Alors, on s'y intéresse parce qu'ils sont déjà peu connus. Et surtout, ils sont dans une position qui correspond à un modèle mathématique qui a été créé par le modèle de Nice, hein, Alessandro Morbidelli, de la formation du système solaire. Et donc, ils ont comme intérêt, d'abord, d'être très très anciens, et donc de vraiment avoir les caractéristiques du tout début du système solaire.
Donc ce sont en quelque sorte des capsules temporelles, c'est ça, de la naissance de notre système solaire, il y a 4 milliards d'années?
Ce sont des capsules temporelles, alors si on veut faire la référence à Lucie, c'est un peu aussi, ce sont des fossiles, si vous voulez, du système solaire, qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur sa formation, son passé, et sur son contenu chimique, qui nous donnera des indications sur la contribution de toute cette chimie du système solaire à l'émergence de la vie sur Terre.
En gros, ce sont ce type d'astéroïdes qui ont participé à la formation des planètes, comme la planète Terre?
Alors, probablement... Et probablement pas. C'est tout à fait toute la question parce qu'ils sont quand même très très éloignés du centre du système solaire et ils se sont probablement formés, c'est ce qu'on va apprendre, hein, à l'extérieur du système solaire et petit à petit, il y en a certains qui sont rentrés dans le système solaire avec un moment où il y a eu un problème entre Saturne et Jupiter et puis ils ont contribué à la formation du système de nos planètes mais ils sont probablement pas à l'origine même de la planète. Mais c'est ça qu'on va découvrir et ça va valider le système de formation de Nice tel qu'on le connaît et tel qu'on le comprend aujourd'hui. Et si ça ne le valide pas, eh bien il faudra inventer, c'est le rôle des scientifiques, un nouveau système, un nouveau modèle pour comprendre d'où nous venons et pourquoi nous sommes là.
Alors comprendre l'origine de notre système solaire, c'est bien, mais comprendre l'origine de l'univers, c'est encore mieux. Et ça, ce sera la mission d'un autre outil d'observation très attendu qui doit s'envoler en décembre pour l'espace, c'est le télescope James Webb, le successeur du vénérable Hubble. Ça va être un vrai bond en avant, ce nouvel engin?
Alors ça sera un énorme bond en avant, aussi important, je dirais, que ce qu'a été Hubble. Mais on va aller... Alors on va pas voir les choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus petites, on va simplement voir beaucoup plus loin dans le temps, parce que on va pouvoir aller dans des... Alors ce qu'on appelle des longueurs d'onde, c'est-à-dire dans une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais dans l'infrarouge très loin, enfin moyen, donc jusqu'à quelques milliards d'années supplémentaires, je dirais, pour l'origine du système solaire, et l'origine de l'univers. Et
donc, j'ai lu qu'il allait pouvoir observer la lumière créée juste après le Big Bang. Comment est-ce possible?
Alors, bah, cette lumière, elle reste encore, je dirais, les photons sont pratiquement éternels, si vous voulez, et donc les photons qui ont été créés à ce moment-là, la première lumière, eh bien, elle est là, elle est encore là, mais pour la voir, il faut vraiment, pour la détecter, la voir est un mot excessif, pour la détecter, il faut être capable d'avoir des instruments beaucoup plus gros, beaucoup plus sensibles, et qui vont beaucoup plus loin dans la lumière noire, la lumière infrarouge, et c'est comme ça qu'on va aller voir plus loin. Donc, il faut un miroir beaucoup, beaucoup plus grand, et puis des instruments qui vont beaucoup plus loin. Juste pour donner un exemple, alors l'unité n'est pas très importante, mais avec Hubble, on va jusqu'à 2,6 microns, et là, on va aller à 28 microns, donc on va avoir de la lumière, je dirais, avec une longueur d'onde 10 fois plus importante. Et ça, ça va nous donner des informations phénoménales sur l'origine de notre univers, sa formation, et les premières étoiles qui se sont formées à partir du premier hydrogène qui a été créé à ce moment-là.
Alors ce télescope a nécessité 30 années de développement et 10 milliards de dollars, c'est absolument colossal. Et il est arrivé il y a quelques jours à Kourou, en Guyane, puisque c'est à bord d'une fusée Ariane 5 qu'il va rejoindre l'espace. Grosse pression sur les Européens, là, s'il ne faut pas que le lancement le loupe, hein, à 10 milliards de dollars l'unité.
Ah, c'est une pression importante, mais vous savez, quand les gens fabriquent des fusées, ils mettent toutes les chances de leur côté. Alors bien sûr, ils vont faire très attention, surtout que cette fusée a des particularités au niveau de la capacité de décompression de la coiffe, etc. etc. C'est extrêmement soigneux. Oui, il y a une pression énorme, mais on le savait dès le départ, on ne savait pas que le télescope allait coûter aussi cher, hein, 10 milliards de dollars pour les États-Unis, à peu près 1 milliard d'euros ou 650 millions d'euros pour l'Europe, probablement quelques centaines de millions d'euros pour le Canada. Donc c'est vraiment l'objet, je pense, le plus onéreux qu'on ait jamais lancé, qui ne soit pas habité par des hommes. Très très grosse pression, mais travail aussi normal de lancement, puisque toutes les fusées, on sait que c'est toujours avec une part de risque, mais c'est pour ça que nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied en permanence. Donc,
l'autre voilà. Énorme pression, Michel Vizeau, c'est que contrairement à Hubble, ce télescope ne pourra pas être réparé une fois dans l'espace. Hein.
Alors là, on va l'envoyer donc un point qu'on appelle un point de Lagrange, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, alors que Hubble tourne à 400 kilomètres autour de la Terre. Donc effectivement là, on ne pourra pas envoyer quiconque le réparer, et on n'a même pas l'instrument, les engins pour envoyer des astronautes réparer cet instrument. Et il est quasiment 10 fois plus complexe que Hubble. Donc,
Donc il faut que tout soit prêt et absolument impeccable avant le lancement qui est prévu début décembre. Merci beaucoup Michel Vizeau de nous avoir éclairé ce matin sur toutes ces actualités spatiales passionnantes. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et exobiologiste. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
6h18 sur Europe 1, vous restez avec nous, la partition du groupe franco-irlandais de Celtic Social Club. Retour sur Terre, à tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous. Si vous venez de vous brancher sur Europe 1, il est 6h20. Voici les principaux titres de ce lundi avec Alban Le Prince.
Conséquence des bugs à répétition des réformes des APL et de l'assurance chômage dans les agences Pôle emploi et de la CAF. Un employé sur 5 estime que les relations avec les usagers sont tendues. Résultat d'un sondage de la CFDT qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Lancement aujourd'hui et pour 5 mois des états généraux de la justice. C'est Emmanuel Macron qui en donne le coup d'envoi à Poitiers. Objectif, remettre à plat le système judiciaire. Et puis une nouvelle fusillade dans un campus universitaire américain hier. Bilan, 1 mort, 7 blessés, annonce cette nuit de la police de la Louisiane.
On termine avec votre partition Omblin et un groupe qui se dresse comme une passerelle entre rock et musique traditionnelle celte. On va mettre la cuisine de côté, on va passer à la musique. Les côtes françaises et irlandaises n'ont jamais été aussi proches grâce à ce Celtic Social Club.
Et c'est de ce côté de la mer, Julien, qui crée ce projet. À l'origine, ça devait être une collaboration éphémère de musiciens souhaitant proposer une combinaison d'influences, d'instruments et d'harmonie. Et cette musique rock franco-irlando-écossaise a d'abord résonné aux confins du Finistère.
The The Celtic Social Club germe dans la tête du batteur et fondateur Manu Masco.
Nous sommes en 2013, Manu Masco est un inconditionnel du groupe U2 et un passionné de musique celtique. Et pourquoi pas fusionner les deux ? Voilà un bon moyen de dépoussiérer la cornemuse en injectant une bonne dose de rock dans ses bourdons. Et cette idée plaît à Jean-Jacques Tou, le programmateur des Vieilles Charrues à Carré en Bretagne. Il propose à Manu Masco de créer un spectacle unique pour le lancement l'été suivant du festival.
Et des musiciens venus de Bretagne, du Poitou et d'Écosse se retrouvent sur la grande scène devant 40 000 personnes.
Impossible d'imaginer qu'ensuite, ils vont simplement se taper dans le dos et se dire à la prochaine. Non, un Buena Vista Social Club en kilt est né ce jour-là. Un premier album voit le jour à peine un an plus tard. Bienvenue au groupe de Celtic Social Club.
Un premier album donc en 2014, puis un deuxième, puis un troisième en 2019.
Oui, avec la volonté toujours intacte de faire se répondre la guitare de Gulven Amel qui a beaucoup accompagné Miossec et le violon de Pierre Stéphan, un Brestois habitué des Fesnoz. L'équipe est complétée par le maestro du Yulen Pipe, une cornemuse irlandaise, Ronan Le Bars, entendu aux côtés de Michel Polnareff ou Johnny Hallyday. Avec son troisième album, The Celtic Social Club revendique son métissage musical, un crossover entre folk, pop et bard des Highlands. Au chant désormais, l'Irlandais Don Donnelly, originaire de Belfast, donne à ce septet un caractère toujours plus cosmopolite. Voilà, on reconnaît ici un petit peu plus à l'influence de U2, de The Police ou encore de Simple Minds.
Oui, on a l'impression que c'est The Edge à la guitare. C'est après vrai. Des années à sillonner les continents, les scènes et les festivals stoppés net par un confinement, le prolifique Celtic Social Club est de retour avec Dancing or Dying.
Le message est clair, sans fête, autant mourir à petit feu. Le disque est un concentré d'énergie positive. Il est grand temps de danser, de vivre pour de vrai. I'll knock you out. Come back, it's in time. Get up, get ready to get back in time. Can keep me down, I'll never stop. I never will say die. I'll rise up and mend my broken heart. And I'll fix all the things that fell apart. For Real, extrait du quatrième et dernier album de The Celtic Social Club, Dancing or Dying, déjà disponible.
Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko va nous donner le menu de votre matinale jusqu'à 9h. A tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 et on vous souhaite une excellente matinée en compagnie de Dimitri Pavlenko.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Vous avez passé un bon week-end.
Excellent.